Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours, disait Lamartine. Ce célèbre poète romantique français n'hésitait pas à faire la petite, humble, simple et modeste demande suivante. Temps, arrête-toi. Alors moi, tout à l'heure, en découvrant le sujet de la finale, je me suis dit, si Lamartine peut demander au temps de s'arrêter, pourquoi est-ce que moi, Louise de Neff, je ne pourrais pas lui demander de faire un petit bond en arrière? Parce que voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, ensemble, j'aimerais que nous étudions un des spécimens les plus particuliers de notre histoire. Un spécimen particulier, surtout à cause de son côté très borderline. Parfois gentil, parfois méchant, parfois idiot, parfois intelligent, parfois pacifique, parfois violent. Bref, vous m'avez compris, ce soir, nous allons étudier cette drôle de bête qu'est l'être humain. Mais pour comprendre sa psychologie profonde, je suis convaincue qu'il faut revenir à ses origines premières. Voilà pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, tous ensemble, nous allons remonter le temps. Respirez profondément, donnez-vous la main, fermez les yeux et imaginez-vous assis entre deux hommes préhistoriques. À cette époque, ni Facebook ni réseaux sociaux, pas même un seul McDo à l'horizon. L'homme est bien loin de sa position actuelle de grand colon de l'univers. De plus, il n'a même quasiment aucun avantage sur les autres animaux. Il n'a pas de griffes pour se défendre, il n'a pas de crocs pour manger, il n'a pas de fourrure pour se protéger du froid. Il ne sait pas voler, il ne court pas particulièrement vite, il n'est pas particulièrement fort. Bref, l'homme est un nul, un moins que rien, un loser, une clète. Mais alors, comment l'homme préhistorique a-t-il évolué pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui? Eh bien, l'humain a utilisé sa tête. Il s'est construit des habits, des armes, des habitations. Alors qu'est-ce que cela a comme conséquence? Eh bien l'humain, après avoir réussi à survivre, à se nourrir, à assurer sa reproduction, commence à s'organiser, à mettre des systèmes sociopolitiques en place. Il passe de royauté à empire, d'oligarchie à démocratie, de pharaon à sénateur, de monarque absolu de droit divin à dictateur. Bref, l'humain varie les plaisirs. Parallèlement à cela, l'humain commence également à se poser des questions sur lui, sur son monde, sur ce qui l'entoure. Comme le dit Monsieur Lenoir, écrivain et essayiste français, dans son livre « L'âme du monde », la grandeur de l'être humain est qu'il est le seul être vivant qui puisse s'interroger sur la signification de son existence et lui donner un sens, une direction. Loin de moi l'idée de gonfler l'ego de l'homme et de vexer les animaux de cette terre en disant que eux ne se questionnent pas sur l'existence. Mais honnêtement, je ne pense pas que dans le monde des chiens, il y ait eu un jour un caniche qui, au milieu d'un parc, ait interrogé ses camarades sur pourquoi il court après la baballe et pourquoi il mange des nonos, en disant en plus qu'il sait accoucher des âmes. Je ne pense pas non plus que dans le monde marin vers le 15e siècle, il y ait eu certains poissons excommuniés car il remettait en doute la religion de l'époque. Nous avons donc la preuve que, à travers le temps, les hommes s'organisent et qu'en plus, ils réfléchissent. Mais maintenant, il faut s'interroger sur comment ils s'organisent et comment ils réfléchissent. L'auteur français Le Clésio déclare que « il faut remédier à la misère des esprits pour guérir la maladie qui ronge les bases de notre société démocratique. » Ainsi, nos esprits penseraient, mais penserait de manière misérable. Dès lors, il faut sûrement s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi un spécimen comme l'être humain, qui réussit à survivre au fil du temps, ne pense pas de la bonne manière? Face à cette phrase, j'ai le sentiment que trois solutions sont envisageables. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi nos esprits sont misérables. Qu'est-ce qui les influence? Les réseaux sociaux? Les religions? L'État? Un grand complot de francs-maçons ou d'illuminati? Je suis sûre que nous n'aurions aucun problème à trouver un grand responsable de tous les maux de cette terre. Quelqu'un retravaillerait le protocole des sages de Sion, le publierait, et beaucoup auraient sûrement le sentiment qu'en éradiquant ce responsable de la misère des esprits, tout irait beaucoup mieux. Mais je pense qu'au fond, cela ne serait qu'une illusion. Ensuite, si nos esprits sont misérables, eh bien, arrêtons d'avoir de l'esprit! Arrêtons de penser, arrêtons de réfléchir. Ah, quel bonheur, une vie sans esprit critique. Il suffirait alors qu'un homme ou une femme écrive Milucha. Milucha pourquoi? Parce que ça sonne quand même mieux que Mein Kampf. Nous choisirions alors la facilité, écririons ensemble Lobotomie McFright. Exactement comme en Corée du Nord, nous serions heureux. On aurait tous la même coupe de cheveux, les mêmes habits, la même religion. Et la phrase de l'Ecclésio n'aurait alors plus de sens, car plus personne n'oserait en parler ou même y penser. Mais vous admettrez avec moi que cette solution, bien qu'alléchante, irait contre la démocratie et contre la liberté de penser, ce qui ne serait pas non plus super. Enfin alors, on peut approuver la citation de l'Ecclésio et se dire que, au grand mot, les grands remèdes. Nous pouvons alors sortir dans la rue et tout casser, faire tout tomber et recommencer du début, en espérant que, comme par magie, la misère des esprits disparaîtra et qu'une société démocratique sera reconstruite sur de bonnes bases. Mais honnêtement, je n'ai pas non plus vraiment confiance en cette solution. Je me rends maintenant compte qu'en réalité, je n'ai pas de solution pour remédier à la misère des esprits et pour empêcher notre société démocratique de tomber. Parce que je ne suis pas d'accord avec la phrase de l'Ecclésio. Oui, je sais qu'il y a des choses horribles et terribles qui se passent. Je sais que chaque jour, des innocents meurent. Je sais que Daesh tue énormément. Je sais qu'il y a un grand mur entre l'Inde et le Bangladesh et que quiconque essaye de le traverser se fait abattre. Je sais qu'à Liège, il y a un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. Je sais que dans certains pays, il existe des viols correctionnels pour essayer que des femmes homosexuelles deviennent hétérosexuelles. Je sais que chaque jour, des femmes, des hommes et des enfants meurent à cause de la faim, de la soif, de leurs origines, de leur religion, de leur orientation politique et sexuelle. Je sais que le sang coule sur notre terre et que le sang coule à grands flots. Et je sais surtout que quand je vois ça, je me sens tellement petite et impuissante. Et pourtant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne suis pas d'accord avec l'Ecclésio, car je suis convaincue que notre monde va de mieux en mieux. Prenez-moi pour une folle ou pour une utopiste, mais regardez, il y a 100 ans en Belgique, les enfants travaillaient toujours dans les mines. Seuls les riches avaient le droit de vote, les femmes ne pouvaient quasiment rien dire. À Bruxelles, il y avait un zoo d'indigènes où des Africains étaient enfermés. L'homosexualité était interdite, pas non plus de droit à l'avortement ou de contraception. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que le monde va de mieux en mieux. On me demande souvent qui est la personne que j'admire le plus. J'ai de suite des réponses classiques qui me viennent en tête, comme Martin Luther King, Gandhi ou Simone de Beauvoir. Mais je me rends compte qu'en réalité, il y a tellement d'hommes et de femmes que j'admire. En réalité, j'admire les nombreux hommes et femmes qui, chaque jour, au quotidien, se battent pour que notre monde soit meilleur. Oui, il faut remédier à la misère des esprits, mais je pense que beaucoup de personnes le font déjà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on peut abandonner et laisser le monde comme il est. On peut faire une grande révolution et espérer qu'après ce soit mieux. Mais on peut aussi, chaque jour, se battre à notre échelle pour espérer que le lendemain, le soleil se lève un peu plus tôt. Je vous remercie.
Voici votre question, votre sujet d'improvisation. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi ce qu'est la beauté. Pour vous, qu'est-ce que la beauté?
Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que je pourrais vous fournir une réponse assez classique en vous disant que la beauté, c'est subjectif, que la beauté de l'un n'est pas la beauté de l'autre. Mais pour moi, la véritable beauté, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se ressent. Pour moi, la beauté, c'est la solidarité, c'est voir des gens qui s'entraident, c'est voir que l'humain est capable de faire des actes exceptionnels et que l'humain est capable de rendre le monde meilleur. Je vous remercie.